6h04 minutes, mardi 4 juin. Bonne journée, bienvenue au 98.5 FM. Alors, c'est un matin, encore une fois, très frais. Ciel généralement dégagé, on a 6 degrés. Il y aura soleil et nuages en alternance aujourd'hui, un peu venteux et le maximum 17 degrés. J'ai encore les images d'hier après-midi, là, où il y avait un peu de pluie, beaucoup de vent et c'était du temps très, très frais. Ce soir et cette nuit, quelques nuages, minimum de 8. Et pour demain, mercredi, c'est la pire journée de la semaine. Je suis désolé de vous dire ça comme ça. On prévoit des nuages, des averses qui vont commencer en mi-journée et le maximum demain, 14 degrés seulement. C'est tout un début de juin avec de la pluie intermittente qui va commencer dans la soirée de mercredi et pour se poursuivre durant toute la journée jeudi, alors qu'on prévoit des averses et 22 degrés. Il semble, toujours selon les prévisions optimistes d'Environnement Canada, que le soleil va s'installer à compter de vendredi pour le week-end du Grand Prix et les températures pourraient grimper jusqu'à 24, 25, 26 degrés durant la fin de semaine. Il y a encore quelques jours là, avec du temps gris, du temps frais, notamment pour la journée d'aujourd'hui et surtout demain et jeudi. Bon, dans les nouvelles ce matin, d'abord, une étude publiée par la presse montre que des jeunes peuvent être déplacés à de multiples reprises quand ils sont sous la responsabilité de la DPJ. Je savais que ça avait existé et je suis convaincu que beaucoup d'auditeurs qui sont passés par la protection de la jeunesse durant leur vie, que ça fasse 20 ans, que ça fasse 15 ans, pourraient très bien m'écrire et me raconter le nombre de fois où ils ont changé d'endroit. Là, on parle de cas récents et c'est ça qui est encore plus troublant. Donc, ils ont un parcours qui implique beaucoup de déplacements. En moyenne, là, quand vous êtes confié à la DPJ, c'est 5 déplacements. Un jeune sur 6 retiré de sa famille biologique a été déplacé au moins 10 fois. 10 fois. Et on a même des cas rares, mais qui existent, de quelqu'un qui a été déplacé 50 fois. Imagine-toi l'impact sur ta capacité d'attachement. Puis comment tu vois le monde adulte. L'étude, donc, a soumis un questionnaire à 1100 jeunes placés par la DPJ, âgés de 17 ans, au début des travaux, donc en 2018. Et ils les ont questionnés de nouveau en 2019. Ils vont le refaire l'an prochain. Les données récoltées ont été croisées avec des dossiers sociaux complets de 1400 autres jeunes. Donc, c'est 2500 jeunes qui ont été étudiés. Et c'est une instabilité qui a des impacts, évidemment, importants. Les chercheurs démontrent que les jeunes placés ont connu en moyenne donc 5 changements, ce qui exclut là, les changements à court terme, là, quand vous êtes placé pour quelques jours seulement. Près de 15 % des jeunes avaient subi 10 déplacements. 11 % avaient été déplacés plus de 12 fois. Et ce qu'on remarque également, il y a un autre volet, qui est l'impact sur le parcours scolaire des enfants de la DPJ. Je n'ai pas besoin de vous démontrer que ces jeunes-là ont de la difficulté à l'école et que seulement 17 % des jeunes placés par les services sociaux âgés de 17 ans avaient atteint le secondaire normal pour leur âge, c'est-à-dire le cinquième secondaire. Quand vous regardez les chiffres, 75 % des jeunes avaient réussi à atteindre le cinquième secondaire et le tiers des jeunes de la DPJ, avaient redoublé une année, avec évidemment des taux d'échec et d'insuccès très élevés. Ça, là, ça devrait être un des éléments phares de la réflexion de la commission présidée par Régine Laurent. Le déplacement des enfants, et il y a un paquet de facteurs connexes. Des enfants qui roulent parce que ça ne va pas avec la famille d'accueil, parce qu'on va les envoyer en centre, puis on sait qu'être en centre, c'est pas idéal. Il y a des enfants qui sont placés pour leur protection. Puis idéalement, il faut qu'ils se retrouvent dans un milieu familial, ou en tout cas, ce qui ressemble le plus à un milieu familial, pas de vivre dans un centre. Deuxièmement, toujours les parents biologiques. Puis je regarde du coin de l'œil ce qui se passe, évidemment, dans le cas de l'enfant décédé à Granby. Là. La belle-mère qui veut retourner en liberté, on reprend les procédures jeudi. Mais dans ce cas-là, quand vous regardez les jugements, je sais, je me répète, ça démontre clairement que la préoccupation était les parents. et que l'enfant, malgré tout le descriptif qu'on avait fait de ses parents inaptes, incompétents, que l'enfant était, pour ce qui est de sa santé, sécurité, son développement était compromis, mais c'est pas grave, on l'a retourné dans ce milieu-là, malgré les signes. Et comme on disait hier, avec M. Lebon et Mme Laurent, qui sont présidente et co-présidents, les juges donnent des ordonnances, puis c'est même pas exécuté. Il y a quelque chose qui marche pas dans le système. Puis là, vous déplacez ces enfants-là. Alors, on peut comprendre, bien sûr, les séquelles que ces enfants-là vont porter toute leur vie. Deuxième nouvelle ce matin, c'est un sondage léger qui confirme, c'est pas très étonnant, que 74 % des Québécois sont d'accord à ce qu'une demande d'aide médicale à mourir soit faite de manière anticipée avec un formulaire officiel dès qu'on reçoit un diagnostic de maladie d'Alzheimer. Alors, on a tous quelqu'un de près ou de loin dans notre entourage qui a souffert ou qui souffre de cette maladie, puis on se dit, là, moi, je veux pas vivre ça. Et comme je serai inapte à décider, ben je veux pouvoir indiquer mes volontés à l'avance, pendant que je suis lucide. Et c'est ce que les Québécois expriment. On a fait le débat pas mal la semaine dernière, parce que c'est pas simple. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? À quel moment on doit administrer l'aide médicale à mourir? À quelle étape de la maladie? Qui va le faire? Comment ça va se passer? Il y a beaucoup de zones grises. Et on sait qu'il y a une commission qui se penche là-dessus. Primo. Deuxièmement, la semaine dernière, le docteur L'Espérance était avec nous. Il nous a rappelé qu'il existe une façon, pas d'obtenir l'aide médicale à mourir, mais une façon d'abréger ses souffrances et d'indiquer comment on veut que notre vie se termine. C'est sûr que ce n'est pas une aide directe. Ce n'est pas comme voici le rendez-vous avec le médecin et on va vous faire les injections, mais c'est de renoncer, par exemple, à des traitements, c'est de renoncer à de l'acharnement, c'est de ne pas être réanimé et c'est une sédation qui peut tout à fait légalement être donnée et tranquillement, la personne finit par mourir. Mais c'est pas très connu et les gens donc le savent pas, ce qui fait qu'il y a peu de gens qui vont, par exemple, remplir la demande officielle. Mais c'est sûr qu'on a ce réflexe-là, tu sais. Le portrait qu'on faisait des centres de soins de longue durée, quand les gens sont, par exemple, complètement inaptes, complètement déments, tu veux pas vivre ça. Puis dans la foulée de l'affaire Cadotte, tu te dis, ça me tente pas, là. J'aime mieux partir. C'est un énoncé qui se comprend. Maintenant, comment, dans les faits, ça peut se matérialiser? Ça, c'est une autre affaire. 6h12, on va retrouver Marc, les points chauds de ce matin. Merci beaucoup. Le ministre Éric Kerr nous a fait de grandes promesses hier en matière informatique. Alors, il promet de moderniser le gouvernement du Québec, de rendre la relation entre le citoyen conviviale, efficace, à toute heure du jour ou de la nuit. Bref, que l'État soit à notre service avec un système informatique révolutionnaire. On écoute ça et on dit « Wow! » C'est parce qu'on a un doute. On devient sceptique sur la capacité que ça se produise pour vrai. Combien ça va coûter? Toutes les dérives informatiques qu'on a connues avec le dossier de santé électronique, l'incapacité du gouvernement, malgré les promesses, là, tous les partis qui sont passés, tous les gouvernements nous promettaient un paquet d'affaires. Et hier, je reprends ça dans le Devoir ce matin, où M. Kerr a dit, vous allez voir, en 2023, là, les fax, ça va disparaître. Quand on demandait à Lionel Carman, il n'était pas sûr, lui. Fait que déjà, là, entre les deux, là, ça, c'est un peu, disons, instable. Alors, on veut le croire, là, tu sais. Mais je le répète, il y a eu tellement de gaspillage dans le domaine informatique qu'on est assez sceptique. Des firmes qui ont fait du fric, des commandes gouvernementales complètement floues. Là, vous savez qu'ils veulent transférer les données des citoyens à des entreprises privées. On va en reparler avec le ministre. Moi, j'ai un problème personnellement avec ça, là. Que l'État transfère des infos sur les citoyens à une entreprise privée avec toutes les garanties qu'on veut, là. C'est sûr que ça prend l'entreprise privée pour mettre ça sur pied, mais de dire qu'ils vont être les gestionnaires, je ne pense pas que c'est nécessairement une bonne idée. Alors, le ministre Kerr, donc, sera avec nous. Un peu plus tard dans l'émission. On revient sur le rapport concernant les femmes et filles autochtones disparues et assassinées. Bon, c'est sûr que hier, c'était prévisible que le débat allait porter sur la notion de génocide. Écoutez, génocide ou pas, ce que ce rapport-là nous montre, c'est que le Canada se foutait des Autochtones, avait un objectif, les assimiler sur le plan culturel. Et quand je dis s'en foutait, c'est que ce qui se passait sur les territoires autochtones, la violence, les conditions insalubres, des femmes qui disparaissaient, des femmes qui étaient assassinées, pendant des décennies, ce n'était même pas une préoccupation. C'est une sous-population. Et c'était quoi le mandat dès le début de la Confédération? C'est de faire en sorte que leurs valeurs, leur culture, leur langue disparaissent, qu'ils deviennent des Canadiens, point final. Alors, oui, c'est un génocide culturel, c'était ça l'objectif, mais on n'est pas face à un plan systématique d'extermination comme on l'a vu, par exemple, au Rwanda, quand on peut décrire la Shoah ou encore le génocide arménien. Puis je comprends là que ça peut susciter des réactions épidermiques, mais c'est quand même ça. Ce qui ne veut pas dire que c'est pas grave, là. Ça veut pas, ça n'enlève rien au fait troublant, à l'horreur, pour reprendre le mot de M. Trudeau, qui hier a refusé de parler de génocide, sauf hier soir, il faisait un discours à Vancouver. Et là, en anglais, pas dans la partie française, en anglais, il a dit que l'enquête nationale a présenté formellement son rapport final dans lequel les commissaires concluent que la violence tragique dont ont été victimes les femmes et les filles autochtones constitue un génocide. Il ne dit pas que c'en est un. Il dit que les auteurs du rapport disent que c'en est un. Alors, il y a une série de recommandations qui sont évidemment sur la table, notamment pour s'assurer qu'il y ait une espèce d'ombudsman pour protéger les droits des Autochtones, que les langues autochtones soient officiellement reconnues comme des langues officielles au Canada. Et évidemment, on peut dire qu'il faut aussi développer une nouvelle approche, notamment en ce qui concerne la justice et la sécurité publique. Mais hier, là, on a eu droit à toutes sortes de dérapages sur les réseaux sociaux. C'est comme si tu disais, moi, je pense qu'au sens de la définition, c'est pas un génocide. Et l'effet là, qui s'est produit hier, là, c'est exactement ce qui est anticipé. Parce que le débat portait là-dessus. Et on parlait beaucoup moins du fond du rapport qui a été présenté. Maintenant, une histoire assez bizarre qui est racontée dans le Journal de Montréal. On apprend que Guy Cloutier poursuit l'ancien chef de cabinet de Robert Bourassa, ancien président de TVA, créateur de la CAQ avec François Legault, Mario Bertrand. Semble-t-il que Guy Cloutier lui a prêté à l'époque, il venait de sortir de prison, pratiquement $1 million, et que M. Bertrand aurait remboursé 415 000, et que bref, il doit la balance plus les intérêts. Et là, il paraît, selon les faits, que M. Bertrand et son ex-épouse, donc, ont divorcé, et que l'ex-conjointe aurait obtenu, en vertu d'une entente, le transfert des actifs de Mario Bertrand, ce qui fait qu'il est insolvable. C'est pour ça qu'il ne paye pas. Alors, on pense quoi? On pense que c'est un fling-flang pour, évidemment, éviter de payer de l'impôt, éviter de payer ses dettes. Alors, Cloutier dit, ben, voilà en cours pour récupérer l'argent qui m'est dû. Il faut aussi rappeler que ce n'est pas la première fois que Mario Bertrand emprunte de l'argent. Il empruntait de l'argent à Pierre Bibeau, qui était VP de l'Auto-Québec, conseiller aussi de Robert Bourassa. Il a même emprunté de l'argent au suave Joël Gauthier, qui était, évidemment, vous vous rappelez, dans le transport, président de l'agence, qui s'est lancé en affaires avec le rachat de filiales, ça a dérapé complètement, de Tony Accurso. Mais là, tu te dis, comment ça se fait que Mario Bertrand, supposément un homme d'affaires qui a réussi, emprunte de l'argent à Joël Gauthier, il ne doit pas avoir Saint-Saëns qui l'adore trop, à Pierre Bibeau, qui n'est pas un millionnaire, puis à Guy Cloutier. Puis ces gens-là lui prêtent de l'argent. Puis c'est drôle, à chaque fois, il ne se souvient pas ou il a de la misère à te faire payer ou c'est compliqué. Quand même une affaire bizarre. Et M. Bertrand a été dans les roues du fer. Là. Il est président de TVA, puis à un moment donné, il était Monaco. Puis là, les actifs étaient là-bas. Puis là, il prétendait qu'il ne peut pas tout ramener, puis que c'est pour ça qu'il empruntait, puis que le prêt serait rapidement remboursé. lui qu'on nous présentait comme quelqu'un de pas très sympathique dans la vie et surtout abrasif. Alors là, Guy Cloutier qui amène l'histoire devant le tribunal. Là, il y a une autre histoire, cette fois dans la presse, qui est assez intéressante. C'est une PME qui s'appelle Agendrix. C'est une firme de gestion des horaires qui compte une vingtaine d'employés et qui va très bien dans 26 pays. Alors, ils ont des clients comme Rona, les rôtisseries Saint-Hubert et Vidéotron. Et ils ont publié une lettre ouverte pour dire que travailler avec la Société des alcools du Québec, qui est pourtant un client potentiel plus qu'intéressant, ça ne les intéresse pas. On décrit le bordel à la Société des alcools, qu'on a hérité de plusieurs années de conventions collectives incompréhensibles, lourdes, et que finalement, on n'est pas capable, et ça ne nous intéresse pas. C'est tellement tout croche, la Société des alcools, pour ce qui est des conventions collectives, des horaires de travail, qu'on a décidé de ne pas soumissionner pour concevoir un nouveau logiciel parce que c'est trop, et je cite, « contraignant, trop complexe et aucunement adapté à la réalité d'aujourd'hui ». On sait que le dernier conflit de travail à la Société des alcools portait, entre autres, sur les horaires de travail. Pis on voulait avoir plus de souplesse. Mais imaginez là une firme qui dit « Vous voulez qu'on soumissionne pour votre nouveau logiciel? On regarde ça, nous autres, là? » Ça ne prendrait pas notre temps. Ça ne nous intéresse pas d'être associés à votre désastre. Alors, dans la presse, vous retrouvez ça. On a appris hier, en début de soirée, que le groupe Maurice était vendu à des intérêts américains. On va détailler ça avec Pierre-Yves tantôt. Mais donc, c'est un géant des résidences pour personnes âgées. Et c'est un fonds américain qui ramasse le contrôle. M. Michaud garde 15%. Et on sait qu'il y avait des relations tendues avec le partenaire, la famille Bourgie. Mais quand on sait que c'est un fonds qui achète, ça veut dire que c'est une transaction temporaire. Habituellement, les fonds achètent, essaient de dégager un profit, puis se poussent après ça. L'autre chose, on apprend également qu'il y a eu des pourparlers avec la Caisse de dépôt. Mais vous comprendrez que ça ne s'est pas matérialisé. Et puis, on vous reparlera de iTunes un peu plus tard ce matin. Il y a eu des changements annoncés hier par Apple. Et quand on voit ça, ben, ça nous rappelle tout le débat concernant l'industrie de la musique. Parce que les gens achètent moins, beaucoup moins de produits et se dirigent vers ce qu'on appelle le streaming. Ce qui fait que les Spotify de ce monde et les autres versent des peanuts aux chanteurs. Je pense que c'est Pierre Lapointe qui disait qu'il y avait eu 1 million d'écoutes de ses chansons, puis que ça y rapportait pas 1 000 piastres. Alors, c'est complètement ridicule, mais c'est la nouvelle façon de faire de l'industrie. Et est-ce que la disparition d'iTunes qui va être remplacée par Apple Music, ça va changer le modèle économique? Plusieurs en doutent. Il est 6h23. On y va avec l'autoroute 13.